21. Tels étaient nos rapports quand parut cet homme. Il arriva à Moscou. Il se nommait Troukhatchevski. Il vint chez moi. C'était un matin. Je le reçus. Autrefois, nous nous tutoyons. Il essaya par des phrases impersonnelles de réimplanter le « tu ». Mais, résolument, je donnai le ton en « vous » et aussitôt il l'accepta. Il me déplut du premier coup d'œil. Mais, chose étrange, une force bizarre, fatale, me contraignait à ne pas le repousser, à ne pas l'éloigner, mais au contraire, à le laisser approcher. Rien n'eût été plus simple que de s'entretenir quelques minutes avec lui, froidement, et de le congédier sans le présenter à ma femme. Mais non, comme exprès, je mis la conversation sur son air et lui dis que j'avais entendu qu'il avait abandonné le violon. Il répondit qu'au contraire, il en jouait maintenant plus que jamais. Il se rappelait que je jouais jadis. Je répondis que j'avais abandonné la musique, mais que ma femme jouait fort bien. Chose bizarre, mes relations avec Troukhatchevski dès le premier jour, la première heure, furent telles qu'elles auraient pu être après tout ce qui est arrivé. Il y avait quelque chose de tendu dans mon attitude envers lui. Je remarquais chaque mot, chaque expression, et leur attribuais de l'importance. Je le présentais à ma femme. Aussitôt la conversation tomba sur la musique, et il proposa de jouer avec elle. Ma femme, comme toujours depuis les derniers temps, était très élégante, très attirante et d'une beauté troublante. Visiblement, il lui plut du premier regard. En outre, elle était contente de jouer accompagnée par le violon, ce qu'elle adorait. Il lui arrivait même d'inviter pour cela un violoniste du théâtre. De sorte que sur son visage s'exprimait cette joie. Mais quand elle jeta les yeux sur moi, elle comprit mon sentiment et dissimula son impression. Alors commencèrent ces jeux de la tromperie mutuelle. Je souriais agréablement, faisant mine que tout cela me plaisait extrêmement. Lui regardait ma femme comme tous les débauchés regardent les jolies femmes, en ayant l'air de s'intéresser seulement au sujet de la conversation, c'est-à-dire à ce qui ne l'intéressait pas du tout. Elle cherchait à paraître indifférente. Mais mon expression, mon jaloux ou faux sourire qu'elle connaissait si bien, et le regard voluptueux du musicien l'excitait évidemment. Je vis qu'après la première entrevue, déjà, ses yeux brillaient particulièrement, et que probablement grâce à ma jalousie, entre lui et elle s'établissait cette espèce de courant électrique que provoque l'identité de l'expression du sourire et du regard. Elle rougissait, il rougissait. Elle souriait, il souriait. Nous parlâmes de musique, de Paris, de toutes sortes de futilités. Il se leva pour s'en aller. Le chapeau à la main, sur sa hanche dandinante, il se tint debout, regardant tantôt elle, tantôt moi, comme s'il attendait ce que nous allions faire. Je me rappelle cette minute, précisément parce qu'alors je pouvais ne pas l'inviter, et rien ne serait arrivé. Mais je jetai un regard sur lui, sur elle. « Ne va pas croire que je puisse être jaloux de toi, » pensai-je en la regardant, « ou que j'ai peur de toi, » me dis-je m'adressant mentalement à lui. Et je l'invitai à apporter un soir son violon pour jouer avec ma femme. Elle leva sur moi un regard étonné, son visage s'empourpra, comme si elle eût été saisie d'une soudaine frayeur. Elle commença par se récuser, disant qu'elle ne jouait pas assez bien. Ce refus m'excita davantage, et j'insistai. Je me souviens du sentiment étrange avec lequel je regardais sa nuque à lui, son cou blanc, contrastant avec ses cheveux noirs séparés par une raie, quand, de sa démarche sautillante comme celle d'un oiseau, il sortit de chez nous. Je ne pouvais ne pas m'avouer que la présence de cet homme me faisait souffrir. Je savais qu'il dépendait de moi de m'arranger de façon à ne plus jamais le recevoir. Mais agir ainsi, c'était avouer que je le craignais. « Non, je ne le crains pas. Ce serait trop humiliant, me dis-je. » Et là même, dans l'antichambre, sachant que ma femme m'entendait, j'insistais pour que, le soir même, il vînt avec son violon. Il me le promit. Il partit. Le soir, il arriva avec son violon. Ils jouèrent ensemble. Pendant longtemps, Le jeu marcha mal, nous n'avions pas la musique nécessaire, et celle que nous avions, ma femme ne pouvait la jouer sans l'avoir déchiffrée au préalable. J'aimais beaucoup la musique et m'intéressais à leur jeu. Je les aidais en arrangeant pour lui le pupitre et tournant les pages. Ils finirent par exécuter quelques morceaux. Des chansons sans paroles, une petite sonate de Mozart. Ils jouaient admirablement. Il avait au plus haut degré ce qu'on appelle le ton, et en plus un jeu énergique et noble qui ne correspondait pas du tout à son caractère. Il était, cela va sans dire, beaucoup plus fort que ma femme. Il l'aidait et en même temps louait son jeu avec courtoisie. Il se tenait très bien. Ma femme paraissait ne s'intéresser qu'à la musique. Elle était très simple et naturelle. Pendant toute la soirée, je feignis de m'intéresser seulement à la musique. Au fond, je ne cessais d'être torturé par la jalousie. Dès le premier regard échangé entre ma femme et le musicien, je vis que la bête qui était en eux, bravant toutes les conditions de la situation et du monde, demandait « Peut-on ?» et répondait « Oh oui, avec plaisir !» Je vis qu'il ne s'était pas attendu à trouver dans ma femme, une dame de Moscou, une femme si agréable, et qu'il en était très heureux, car il n'avait aucun doute qu'elle consentait. Toute la question était d'obtenir que ce mari insupportable ne gênât pas. Si j'eusse été pur, je n'aurais pas songé à ce qu'il pouvait penser d'elle. Avant d'être marié, comme la majorité des hommes, je regardais ainsi les femmes. Voilà pourquoi je lisais dans son âme, comme dans un livre. J'étais au supplice surtout parce que j'étais sûr qu'elle n'avait d'autre sentiment envers moi qu'une irritation perpétuelle qui s'interrompait parfois dans la sensualité coutumière, et parce que j'étais sûr également que cet homme, grâce à ses dehors élégants et à sa nouveauté, grâce surtout à son grand talent indiscutable, grâce au rapprochement qui se fait sous l'influence de la musique et à l'impression que produit la musique, surtout le violon, sur les natures nerveuses, devait non seulement plaire, mais immanquablement, sans aucune difficulté, la subjuguer, la vaincre, et en faire ce qu'il voudrait. Je ne pouvais ne pas voir cela, et je souffrais horriblement. Malgré cela, et peut-être même à cause de cela, une force obscure, malgré moi, me poussait à être non seulement poli avec lui, mais plus que poli, aimable. Je ne saurais dire si je le faisais pour ma femme, pour lui montrer que je ne le craignais pas, ou pour moi, pour me tromper. Mais dès mes premières relations avec lui, je ne pouvais être à mon aise. J'étais obligé, pour ne pas céder au désir de le tuer immédiatement, de le caresser. Je lui versais à boire des vins très chers pendant le souper. Je m'enthousiasmais à son jeu. Avec un sourire des plus aimables, je lui parlais, et même je l'invitais à dîner pour le dimanche suivant et à faire de la musique. Je lui dis que j'inviterais quelques-unes de mes connaissances, amateurs de musique, pour l'entendre. Et cela se termina ainsi. Bosnichev, très ému, changea de position et fit entendre son étrange son. « C'est bizarre comme la présence de cet homme agissait sur moi, » reprit-il de nouveau, en faisant un effort évident pour paraître calme. Deux ou trois jours plus tard, en rentrant chez moi, dans l'antichambre, je sentis subitement, sans pouvoir me rendre compte de ce que c'était, que quelque chose de lourd comme une pierre s'appesantissait sur mon cœur. Voici ce que c'était. En traversant l'antichambre, j'avais remarqué quelque chose qui me le rappelait. Je ne m'en rendis compte qu'une fois arrivé dans mon cabinet, et je revins dans l'antichambre pour vérifier. Oui, je ne m'étais pas trompé. C'était son paletot, vous savez, un paletot à la mode. Sans m'en rendre compte, j'avais observé avec une attention extraordinaire tout ce qui se rapportait à lui. J'interrogeais, c'était cela. Il était là. Au lieu de passer par le salon pour aller dans la salle, je traversais la chambre d'études des enfants. Lise, ma fille, était assise devant un livre, et la vieille bonne avec la dernière née se tenait auprès de la table et faisait tourner un couvercle. La porte de la salle était ouverte. J'entendis un arpège lent et leur voix à lui et à elle. J'écoutais, mais ne pus distinguer. Évidemment, les sons du piano étaient produits exprès pour étouffer leurs paroles, leurs baisers peut-être. Mon Dieu, ce qui me monta au cœur, ce que je m'imaginais. Quand je me souviens de la bête qui vivait en moi, alors l'effroi me saisit. Mon cœur se serra, s'arrêta, puis se remit à frapper comme un marteau. Le sentiment principal, comme dans chaque accès de colère, c'était la pitié pour moi-même. Devant les enfants, devant la vieille bonne, pensais-je. J'avais probablement l'air terrible parce que Lise me regarda avec des yeux étranges. « Que faire ?» me demandai-je. « Entrer ? Je ne le puis pas. Je m'en irai, je n'en peux plus. Dieu sait ce que je ferai si... Mais je ne puis pas m'en aller. » La vieille bonne leva les yeux sur moi. Il me sembla qu'elle me comprenait. « Je ne puis pas ne pas entrer, » me dis-je. J'ouvris brusquement la porte. Il était assis devant le piano et, de ses longs doigts blancs recourbés, exécutait des arpèges. Elle se tenait debout dans la courbure du piano à queue, devant la partition ouverte. Elle me vit ou m'entendit la première et leva les yeux sur moi. Fut-elle saisie, fit-elle mine de ne pas avoir peur, ou, en effet, ne fut-elle pas effrayée? En tout cas, elle ne tressaillit pas et ne bougea pas. Elle rougit, mais un peu après seulement. « Je suis contente que tu sois venue. Nous n'avons pas décidé ce que nous jouerons dimanche, » dit-elle d'un ton qu'elle n'eût pas eu si nous avions été seuls. Ce ton, cette façon de dire « nous » en parlant de lui et d'elle, me révolta. Je le saluai sans mot dire. Il me serra la main et, tout de suite, avec un sourire qui me parut moqueur, il m'expliqua qu'il avait apporté de la musique pour préparer ce qu'il jouerait dimanche, et qu'ils étaient en désaccord sur le morceau à choisir. Des choses difficiles, classiques, notamment une sonate de Beethoven, ou des morceaux légers. Tout cela était si naturel, si simple, qu'il n'y avait pas moyen d'y trouver à redire. En même temps, je voyais, j'étais sûr que c'était faux, qu'ils s'entendaient pour me tromper. Une des situations les plus pénibles pour les jaloux, et dans notre société tout le monde est jaloux, est celle qui résulte des conventions mondaines qui permettent une intimité très grande et dangereuse entre un homme et une femme. On devient la risée de tout le monde si l'on veut empêcher les rapprochements au bal, l'intimité des médecins avec leurs malades, la familiarité des occupations d'art, de peinture et surtout de musique. Pour que les gens s'occupent ensemble de l'art le plus noble, la musique, il faut une certaine intimité où l'on ne peut rien voir de blâmable. Seul un sot jaloux de mari peut y trouver à redire. Et pourtant, chacun sait que, dans notre société, un grand nombre d'adultères se nouent grâce précisément à ces occupations, surtout à la musique. Je les avais évidemment embarrassés parce que, pendant un bon moment, je n'avais pu rien dire. J'étais comme une bouteille renversée dont l'eau ne coule pas parce qu'elle est trop pleine. Je voulais l'injurier, le chasser, mais je sentais que je devais me montrer de nouveau aimable, affectueux envers lui. C'est ce que je fis. Cette fois encore, je fis mine d'approuver tout. Grâce à ce sentiment étrange qui me forçait de le traiter d'autant plus aimablement que sa présence m'était plus pénible, cette fois encore, je fis mine d'approuver tout. Je dis que je m'en rapportais à son goût et je conseillai à ma femme d'en faire autant. Il resta juste le temps nécessaire pour effacer l'impression fâcheuse de ma brusque entrée avec une figure épouvantée. Il s'en alla, l'air satisfait des résolutions prises. Quant à moi, j'étais convaincu qu'en comparaison de ce qui les préoccupait, la question de musique leur était tout à fait indifférente. Je l'accompagnai très aimablement jusqu'à l'antichambre. Comment ne pas accompagner un homme qui est arrivé pour troubler votre tranquillité et perdre le bonheur d'une famille entière ? Et je serrai sa main blanche et molle avec une amabilité particulière. 22. Toute cette journée, je ne parlais pas à ma femme. Je ne le pouvais pas. Sa présence provoquait une telle haine que je me craignais moi-même. À table, elle me demanda devant les enfants quand je m'absenterais. Je devais aller la semaine suivante à une assemblée du Zemstvo dans une localité voisine. Je dis la date. Elle me demanda si je n'aurais besoin de rien pour le voyage. Je ne répondis pas. Je restai silencieux à table, et silencieux me retirait dans mon cabinet. Les derniers temps, elle n'entrait jamais dans mon cabinet, surtout à 7 heures. Là, je me couchais sur le divan. J'étais furieux. Tout à coup, j'entendis ses pas. Alors, une idée terrible, ignoble, me vint en tête. Que, comme la femme du riz, elle voulait cacher une faute déjà commise, et que c'était ce qui l'amenait chez moi à 7 heures inaccoutumée. Est-il possible qu'elle vienne chez moi, pensais-je, en entendant ses pas qui se rapprochaient. Si elle vient chez moi, alors j'ai raison. Une haine indicible m'envahit l'âme. Les pas se rapprochaient de plus en plus. Va-t-elle passer outre, vers la salle? Non. La porte grince sur ses gonds, sa personne haute et belle apparaît, et dans sa figure, dans ses yeux, il y a une timidité, une expression insinuante qu'elle cherche à cacher, mais que je vois et dont je comprends le sens. J'avais tellement retenu ma respiration que je faillis suffoquer, et continuant à la regarder, je pris une cigarette et l'allumai. Qu'est-ce que cela signifie? On vient chez toi pour causer et tu te mets à fumer? Elle s'assit tout près de moi sur le canapé, se pressant contre mon épaule. Je reculai pour ne pas la toucher. Je vois que tu es mécontent que je veuille jouer dimanche, dit-elle. Je ne suis pas du tout mécontent, dis-je. Est-ce que je ne le vois pas? Eh bien, je te félicite de ta clairvoyance. Moi, je ne vois rien, sinon que tu te conduis comme une grue. Seulement toi, l'ignominie t'est agréable, et moi je l'aborde. Si tu veux m'injurier comme un charretier, je m'en vais. Va-t'en, sache seulement que si l'honneur de la famille n'est rien pour toi, pour moi tu n'es rien. Va au diable, mais l'honneur de la famille m'est cher. Quoi? Qu'y a-t-il? Va-t'en, au nom de Dieu, va-t'en! Feignait-elle de ne pas comprendre, ou réellement ne comprenait-elle pas de quoi il s'agissait? Mais elle s'offensa, se fâcha. Elle se leva, mais ne s'en alla pas, et s'arrêta au milieu de la pièce. « Tu es devenu absolument impossible, » commença-t-elle. « Avec un pareil caractère, un ange même ne pourrait pas vivre. » Et, comme toujours, cherchant à me piquer le plus possible, elle me rappela un incident avec ma sœur. Un jour, je m'étais emporté et avais injurié ma sœur. Elle savait que cela me torturait et cherchait à m'atteindre au point sensible. « Après cela, rien ne m'étonnera plus de ta part, » dit-elle. « Oui, offensé, humilié, déshonoré et encore m'accusé, » pensais-je. Et soudain, une telle rage, une telle haine m'envahirent que je ne me souvenais pas d'avoir jamais éprouvé rien de pareil. Pour la première fois, j'eus envie d'exprimer physiquement cette haine. Je bondis et m'avançai vers elle, mais au même instant, je compris mon état et me demandai si je ferais bien de m'abandonner à ma fureur. Aussitôt, je me répondis que ce serait bon, que cela lui ferait peur, et au lieu de résister, je m'excitai, m'encourageai, et fus heureux de me sentir bouillir de plus en plus. « Va-t'en ou je te tue » criai-je, et m'approchant d'elle, je la saisis par le bras. J'avais grossi exprès l'intonation de colère de ma voix en disant cela. Et j'étais sans doute vraiment terrible, car elle devint si timide qu'elle n'avait même pas la force de s'en aller et prononça seulement « Facia, qu'as-tu »« Va-t'en » hurlai-je plus fort encore. « Il n'y a que toi pour me mettre dans une telle fureur. Je ne réponds pas de moi. Va-t'en !» M'abandonnant à ma colère, je m'en enivrais et voulais me livrer à quelque acte extraordinaire pour montrer la force de ma fureur. J'avais une envie terrible de la frapper, de la tuer, mais je me rendis compte que cela ne se pouvait pas, et je me contins. Je m'élançai vers la table, je saisis là un presse-papier, et, en criant encore une fois « Va-t'en !», je le lançai à côté d'elle, par terre. J'avais soigneusement visé à côté. Alors elle se dirigea vers la porte pour sortir, mais s'arrêta dans l'embrasure. Aussitôt, et tant qu'elle put le voir, je le faisais pour qu'elle le vît, je pris sur la table un chandelier, un encrier, que je jetai par terre en continuant à crier « Va-t'en, je ne réponds pas de moi !» Elle s'en alla et je m'arrêtai. Une heure après, la vieille bonne entra chez moi et dit que ma femme avait une crise de nerfs. J'allais près d'elle. Elle sanglotait, riait, sans pouvoir parler, et tressaillait de tout son corps. Elle ne simulait pas, elle était véritablement malade. Vers l'aube, elle se calma, et nous nous réconciliâmes sous l'influence de ce que nous appelions l'amour. Le lendemain matin, quand après la réconciliation, je lui avouai que j'étais jaloux de Troukhatchevski, elle ne parut pas embarrassée, et se mit à rire, de l'air le plus naturel. Si étrange lui sembla l'idée de céder à un pareil homme. Est-ce qu'avec un tel homme, une honnête femme peut éprouver un autre sentiment que le plaisir de faire de la musique? Mais si tu veux, je suis prête à ne jamais le revoir, même dimanche, quoique tout le monde soit invité. Écris-lui que je suis souffrante, et ce sera fini. Une seule chose m'agace, c'est que quelqu'un, et principalement lui, ait pu penser qu'il est dangereux. Je suis trop fière pour permettre à quelqu'un de pareilles pensées. » Et elle ne mentait pas. Elle croyait ce qu'elle disait. Elle espérait provoquer en elle-même, par ses paroles, du mépris pour lui, et par là se défendre. Mais elle n'y parvenait pas. Tout conspirait contre elle, surtout cette abominable musique. Ainsi se termina la querelle, et le dimanche, nos invités se réunirent. Troukhatchevski et ma femme firent de nouveau de la musique ensemble. 23. Inutile de dire, je pense, que j'étais très vaniteux. Sans la vanité, avec notre façon de vivre, l'existence n'a pas de but. Aussi, pour ce dimanche, m'étais-je attaché à organiser avec goût le dîner et la soirée musicale. J'avais acheté moi-même un tas de choses pour le dîner, et j'avais choisi les convives. Vers 6 heures, les invités arrivèrent, puis, lui, en habit, des boutons de chemise en brillant, de mauvais ton. Il avait une attitude familière. À toutes les questions, il répondait vite, avec un sourire d'acquiescement et d'intelligence, et une expression particulière qui voulait dire « Tout ce que vous ferez et direz sera précisément ce que j'attendais ». Maintenant, je remarquais avec un plaisir particulier tout ce qu'il y avait de fâcheux en lui, car tout cela devait me tranquilliser et me prouver qu'il était tellement au-dessous de ma femme qu'elle ne pouvait s'abaisser jusqu'à lui, comme elle me l'avait dit. Je ne me permettais plus d'être jaloux. Premièrement, j'avais déjà éprouvé cette souffrance et avais besoin de repos. Deuxièmement, je voulais croire aux assurances de ma femme et j'y croyais. Malgré cela, je ne pouvais être naturel ni avec elle ni avec lui pendant tout le temps du dîner et la première partie de la soirée, avant que la musique ne commençât. Involontairement, je suivais chacun de leurs gestes, chacun de leurs regards. Le dîner fut, comme tous les dîners, ennuyeux et conventionnel. La musique commença assez tôt. Oh, que je me rappelle tous les détails de cette soirée! Je me souviens comme il apporta le violon, ouvrit la boîte, enleva l'enveloppe que lui avait brodée une dame, et commença d'accorder l'instrument. Je revois l'air qu'avait ma femme en s'asseyant, un air faussement indifférent, sous lequel je vis qu'elle cachait une grande timidité, due surtout à l'insuffisance de sa science musicale. Elle s'assit avec cet air faux devant le piano, et alors commencèrent les « la » ordinaires, les pizzicati du violon, l'arrangement des partitions. Je me souviens comment, après, ils se regardèrent, jetèrent un coup d'œil sur les assistants qui s'installaient, puis ils se dirent quelques mots et commencèrent. Il prit les premiers accords. Son visage devint sérieux, sévère, sympathique. En écoutant les sons qu'il tirait de son violon, nonchalamment il pinça les cordes entre ses doigts. Le piano lui répondit, et ça commença. Posnitchev s'arrêta, et, à plusieurs reprises, il émit son étrange bruit. Il voulait continuer à parler, mais il renifla et s'arrêta de nouveau. Ils jouèrent la sonate à Kreutzer de Beethoven, continua-t-il. Connaissez-vous le premier presto? Le connaissez-vous? Ah! S'écria-t-il. Quelle chose terrible que cette sonate! Surtout cette partie, et chose terrible en général que la musique. Qu'est-ce? Je ne comprends pas ce que c'est que la musique. Et pourquoi elle a de tels effets. On dit que la musique élève l'âme. Bêtise, mensonge. Elle agite effroyablement. Je parle pour moi. Mais non d'une façon ennoblissante. Son action n'est ni ennoblissante, ni abaissante, mais irritante. Comment dirais-je ? La musique me fait oublier ma situation véritable. Elle me transporte dans un état qui n'est pas le mien. Sous l'influence de la musique, il me paraît sentir réellement ce que je ne sens pas, comprendre ce que je ne comprends pas, pouvoir ce que je ne puis pas. La musique me paraît agir comme le bâillement ou le rire. Je n'ai pas envie de dormir, mais je bâille quand je vois d'autres bâiller. Sans motif pour rire, je ris en entendant rire. Quant à la musique, elle me transporte immédiatement dans l'état d'âme où se trouvait celui qui écrivit cette musique. Mon âme se confond avec la sienne, et avec lui, je passe d'un état à l'autre. Comment cela se fait-il? Je n'en sais rien. Celui qui a écrit la sonate à Kreutzer, Beethoven, savait, lui, pourquoi il se trouvait dans cet état. Cet état le mena à certaines actions, et voilà pourquoi, pour lui, il avait un sens, tandis que pour moi, il n'en a point. C'est la raison pour laquelle la musique provoque une excitation qu'elle laisse inachevée. On joue par exemple une marche militaire. Le soldat passe au son de cette marche et la musique est terminée. On chante une messe, je communie, et la musique encore est terminée. Mais l'autre musique provoque une excitation qui n'indique pas quel acte doit lui correspondre. Voilà pourquoi la musique est si dangereuse, agit parfois si effroyablement. En Chine, la musique est soumise au contrôle de l'État, et c'est ainsi que cela doit être. En effet, peut-on admettre que le premier venu hypnotise une ou plusieurs personnes et en fasse après ce qu'il veut, et surtout que l'hypnotiseur soit n'importe quel individu immoral. C'est un pouvoir effroyable dans les mains d'un individu quelconque. Par exemple, le premier presto de cette sonate à Kreutzer, peut-on le jouer dans un salon où se trouvent des femmes décolletées, puis le morceau fini, applaudir, manger des glaces et raconter le dernier potin? Ces choses-là, on ne peut les jouer que dans certaines circonstances importantes, graves, dans des cas seulement où il faut provoquer certaines actions correspondantes à cette musique. Mais il est forcément dangereux de provoquer une énergie de sentiment qui ne correspond ni au temps ni au lieu, et qui ne trouve pas à s'employer. Sur moi, du moins, ce morceau agit d'une façon effroyable. Il me semble que de nouveaux sentiments, de nouveaux concepts que j'ignorais jusqu'alors, se font jour en moi. Ah oui, c'est comme ça. Pas du tout comme je vivais et pensais auparavant. Voilà comme il faut vivre, me disais-je en mon âme. Qu'était ce nouveau que j'apprenais ainsi? Je ne m'en rendais pas compte. Mais la conscience de cet état nouveau me rendait joyeux. C'étaient les mêmes figures, entre autres ma femme et lui, mais je les voyais sous un autre jour. Après ce presto, ils exécutèrent l'andante, bien beau, mais ordinaire, pas très neuf, aux variations banales, et le final tout à fait faible. Ensuite, à la prière des invités, ils jouèrent encore une élégie d'Ernst, puis différents autres morceaux. Tout cela était bien, mais ne produisait pas sur moi le centième de l'impression du début. Tout cela se passait déjà sur le fond de la première impression. Pendant toute la soirée, je me sentis léger, gai. Quant à ma femme, jamais je ne la vis telle. Ses yeux brillants, cette expression sévère, majestueuse pendant qu'elle jouait, puis cette langueur complète, ce sourire faible, pitoyable et extatique après qu'elle eut fini. Je vis tout cela sans y attacher d'importance, croyant qu'elle ressentait la même chose que moi, qu'à elle, comme à moi, étaient révélés de nouveaux sentiments. La soirée se termina bien, et les invités se retirèrent. Sachant que je devais partir dans 2 jours pour me rendre à l'assemblée, Troukhatchevski, en prenant congé, me dit qu'il espérait, à son prochain passage à Moscou, avoir le plaisir de répéter cette soirée. Je conclus de là qu'il ne croyait pas possible de venir chez moi en mon absence, et cela me fut agréable. Comme je ne devais pas être de retour avant son départ, il résultait donc que nous ne nous reverrions pas. pour la première fois, je lui serrai la main avec un vrai plaisir et le remerciai de l'agrément qu'il m'avait procuré. Il prit également congé de ma femme. Leur adieu me parut tout naturel et convenable. Tout allait à merveille. Tous deux, ma femme et moi, étions très contents de cette soirée. 24. Deux jours après, je partais pour l'assemblée. J'étais, en faisant mes adieux à ma femme, dans un état d'esprit excellent et tranquille. Dans le district, il y avait à s'occuper d'une foule de choses, et c'était un monde et une vie à part. Pendant deux jours, je passais 10 heures aux séances. Le second jour, on m'apporta à la chancellerie une lettre de ma femme. Je la lus ici même. Elle me parlait des enfants, de l'oncle, des vieilles bonnes, des achats, et, entre autres, comme d'une chose toute naturelle, que Troukhatchevski avait passé à la maison, qu'il lui avait apporté les partitions promises et lui avait proposé encore de jouer, mais qu'elle avait refusé. Je ne me rappelais pas le moins du monde qu'il eût promis des partitions. Il m'avait paru que l'autre soir il avait pris un congé définitif, aussi cela me surprit-il désagréablement. Mais j'avais tant à faire que je n'eus pas le temps de penser, et je ne relus la lettre que le soir en rentrant chez moi. Outre le fait que Troukhatchevski était venu à la maison, tout le ton de la lettre me parut manquer de naturel. La bête enragée de jalousie se mit à rugir dans son repaire et sembla vouloir bondir. Mais, ayant peur de cette bête, je l'enfermai le plus vite possible. « Quel abominable sentiment que la jalousie, me dis-je. Que peut-il être de plus naturel que ce qu'elle écrit ?» Je me couchai. Je me mis à songer aux affaires à terminer. Toujours, pendant les assemblées, je dormais mal. Ce soir, je m'endormis tout de suite. Mais comme il arrive parfois, vous savez, une espèce de commotion électrique m'éveilla. Je m'éveillai et songeai immédiatement à elle, à mon amour charnel pour elle, à Troukhatchevski, et je me dis qu'entre eux, tout était consommé. Aussitôt, la rage et la colère me serrèrent le cœur. Mais j'essayai de me tranquilliser. C'est stupide, il n'y a aucun motif, il n'y a rien. À quoi bon nous humilier, elle et moi, en supposant de telles horreurs? Une espèce de violoniste qu'on invite, un forien avéré, en face d'une femme respectable, d'une mère de famille, ma femme. Quelle absurdité! Mais d'autre part, je me disais, pourquoi cela n'arriverait-il pas? Pourquoi? N'est-ce pas le même sentiment simple et compréhensible, au nom duquel je me suis marié, au nom duquel j'ai vécu avec elle, la seule chose que j'ai voulu d'elle, la seule par conséquent que désirent les autres, et ce musicien aussi? Il est célibataire, bien portant. Je me souvins comment il faisait craquer ses cartilages en mangeant une côtelette, et l'avidité avec laquelle ses lèvres rouges saisissaient le verre de vin. Soigné de sa personne, bien nourri, et non seulement sans principe, mais évidemment avec le principe qu'il faut profiter de tous les plaisirs qui se présentent. Il y a un lien entre eux, la musique, tout ce qu'il y a de plus raffiné dans la volupté des sens. Qu'est-ce qui peut le retenir? Rien. Tout au contraire l'attire. Et elle? Mais qu'est-elle? Elle fut et reste un mystère. Je ne la connais pas. Je la connais seulement comme un animal, et un animal, rien ne peut et ne doit le retenir. Maintenant seulement, je me rappelais leur figure, la dernière soirée, quand, après la sonate à Kreutzer, ils jouèrent un morceau passionné, je ne sais plus de qui, mais un morceau passionné jusqu'à la pornographie. Comment ai-je pu partir, me disais-je, en me rappelant leur figure? N'était-ce pas clair qu'entre eux tout s'était accompli cette soirée? N'était-ce pas clair qu'entre eux non seulement il n'y avait plus d'obstacles, mais que tous deux, surtout elle, éprouvaient une certaine honte après ce qui s'était passé entre eux? Je me rappelais comment elle souriait faiblement, pitoyablement, béatement, en essuyant la sueur de son visage rougi quand je m'approchais du piano. Déjà ils évitaient de se regarder, et ce ne fut qu'au souper, quand elle lui versa de l'eau, qu'ils se regardèrent et se sourirent imperceptiblement. Maintenant, je me rappelais avec effroi ce regard et ce sourire à peine perceptibles. « Oui, tout est fini, » me disait une voix. Et tantôt une autre me disait le contraire. « Es-tu fou? C'est impossible. » Ainsi, angoissé, je restai couché dans l'obscurité. J'allumai une bougie et je pris peur dans cette petite chambre au papier jaune. J'allumai une cigarette et, comme il arrive toujours quand on tourne dans un même cercle de contradictions irréductibles, on fume. Je fumais donc cigarette sur cigarette pour m'étourdir et ne pas voir mes contradictions. Je ne dormis pas de toute la nuit. À 5 heures, ayant décidé que je ne pouvais plus demeurer dans cet état et que je partirais tout de suite, je me levai. J'éveillai le gardien qui me servait et lui donnai l'ordre d'aller chercher des chevaux. À l'assemblée, j'envoyai un mot disant que j'étais rappelé à Moscou pour une affaire urgente et que je priais qu'on me remplaçât par un membre du comité. À 8 heures, je montai en tarantas et partis. 25. Le contrôleur entra, et ayant remarqué que la bougie de notre lanterne était presque consumée, il l'éteignit sans en mettre une nouvelle. Le jour commençait à poindre. Posnitchev se tut, soupirant profondément tout le temps que le contrôleur resta dans le wagon. Il ne reprit son récit que quand le contrôleur fut sorti, et que, dans le wagon demeuré obscur, s'entendit le bruit régulier du train en marche et le ronflement rythmique du commis. Dans la pénombre du jour naissant, je ne voyais pas du tout Posnitchev. Je n'entendais que sa voix, de plus en plus émue et douloureuse. Il me fallait faire 35 verstes en voiture et 8 heures en chemin de fer. En voiture, le voyage fut très agréable. Il faisait un froid d'automne avec un soleil brillant. Vous savez, quand les roues marquent sur la boue durcie. La route était unie, la lumière éclatante et l'air vivifiant. La voiture était confortable. Au lever du soleil, je partis et me sentis plus à l'aise. En regardant les chevaux, les champs, les passants, j'oubliais où j'allais. Parfois, il me semblait que je voyageais simplement et que ce qui motivait mon retour n'était pas. Et j'étais heureux quand je m'oubliais aussi. Mais dès que je me rappelais où j'allais, je me disais « on verra après, n'y pense pas ». À mi-chemin se produisit un incident qui m'arrêta quelques heures en route et par lequel je fus distrait davantage. Quelque chose dans la voiture se brisa. Il fallut la réparer. Cet incident eut une importance considérable en ce que, au lieu d'arriver à Moscou à 5 heures comme je le pensais, je n'y arrivais qu'à minuit et ne fus à la maison qu'à minuit passé, puisque j'avais manqué le rapide et avais dû prendre un train omnibus. La recherche d'une charrette, la réparation, les paiements, le thé dans l'auberge, la conversation avec le portier, tout cela me distrayait encore davantage. À la tombée de la nuit, tout fut prêt. Je me remis en route et le voyage fut encore plus agréable que dans la journée. La lune à son premier quartier, une petite gelée, la route encore bonne, les chevaux, le postillon joyeux. Tout cela m'égayait. Je songeais à peine à ce qui m'attendait, ou peut-être étais-je content encore de ce qui m'attendait pour dire adieu à la vie. Mais cet état paisible, la possibilité de surmonter mes préoccupations, disparut avec le voyage en voiture. Aussitôt dans le wagon, ce fut autre chose. Ces 8 heures de chemin de fer furent pour moi si pénibles que je ne les oublierai de ma vie. Était-ce parce que, en entrant dans le wagon, je m'étais imaginé vivement être déjà arrivé, ou parce que le chemin de fer agit toujours d'une façon excitante? Toujours est-il qu'aussitôt dans le train, il me devint impossible de dormir. Mon imagination, sans répit et avec une vivacité extraordinaire, me dessinait des tableaux plus uniques les uns que les autres, des choses qui se passaient là-bas, sans moi, et qui excitaient ma jalousie. Je brûlais d'indignation, de rage et d'un sentiment particulier qui me comblait d'humiliation en contemplant ces tableaux. Et il m'était impossible de m'en détacher, de ne pas les regarder, aussi bien que de les effacer et me défendre de les évoquer. Plus je contemplais ces tableaux imaginaires, plus je croyais à leur réalité, que semblait me prouver encore la variété de ces images. On eût dit qu'un démon, malgré ma volonté, inventait et me soufflait les plus abominables fictions. Je me rappelais une conversation ancienne que j'avais eue avec le frère de Troukhatchevski et, dans une espèce d'extase, je me déchirais le cœur par cette conversation, la rapportant à Troukhatchevski et à ma femme. Le frère de Troukhatchevski, une fois, à ma question s'il fréquentait les maisons publiques, répondit qu'un homme comme il faut, ne va pas où l'on peut attraper une maladie. Dans un endroit sale et ignoble, alors qu'on peut toujours trouver une femme distinguée. Et voilà que lui, son frère, avait trouvé ma femme. Il est vrai qu'elle n'est plus de la première jeunesse. Il lui manque une dent sur le côté et son visage est un peu empâté, pensais-je pour Troukhatchevski. Mais que faire? Il faut se contenter de ce qu'on a. Oui, il l'oblige, en la prenant pour maîtresse, me disais-je, et puis elle n'est pas dangereuse pour sa précieuse santé. Non, ce n'est pas possible, reprenais-je avec effroi, rien de semblable ne s'est passé. Il n'y a pas même de raison de le supposer. Ne m'a-t-elle pas dit que l'idée même que je pouvais être jaloux d'elle, à cause de lui, était une humiliation pour elle? Oui, mais elle mentait. Elle a toujours menti, me disais-je, et tout recommençait. Il n'y avait avec moi que deux voyageurs dans le wagon, une vieille femme et son mari, tous les deux peu causeurs. Même ils sortirent à l'une des stations, me laissant seul. J'étais comme une bête en cage. Tantôt je bondissais et m'avançais vers la fenêtre. Tantôt je me mettais à marcher, ayant peine à me tenir debout, comme si j'avais espéré faire avancer le train plus vite par mes efforts. Mais le wagon, avec ses banquettes et ses vitres, tremblait continuellement comme celui-ci. Bosnichev se leva brusquement, fit quelques pas et se rassit. « Oh, j'ai peur des wagons de chemin de fer. L'effroi me saisit. « Oui, c'est terrible, continua-t-il. Je me disais, il faut penser à autre chose, par exemple au patron de l'auberge où j'ai pris le thé. Alors, dans mon imagination, paraît le portier avec sa longue barbe et son petit-fils, un enfant du même âge que mon petit Basile. Mon petit Basile, il verra le musicien embrasser sa mère. Que se passera-t-il dans sa pauvre âme? Mais elle, elle ne songe point à cela. Elle aime. Et de nouveau, tout recommençait. Non, non. Eh bien, je penserai à la visite à l'hôpital. Oui, hier, un malade s'est plaint d'un médecin. Le médecin avait une moustache comme Troukhatchevski. Quelle effronterie! Tous deux me mentaient quand il m'a dit qu'il partait. Et de nouveau, tout recommençait. Tout ce à quoi je pensais me ramenait à lui. Je souffrais horriblement. Je souffrais principalement de l'ignorance, du doute, de cette sorte de dédoublement, de l'ignorance de ce que je devais faire, l'aimer ou la haïr. Je souffrais tant qu'il me vint la pensée qui me séduisait de descendre sur les rails, de me mettre sous le train et de tout terminer. Alors, au moins, on ne doutera plus. Une chose m'empêcha de le faire, la pitié pour moi-même, qui éveillait en même temps ma haine pour elle. Envers lui, j'éprouvais le sentiment étrange de mon humiliation et de sa victoire, mais pour elle, une haine terrible. Non, je ne peux pas me tuer et la laisser libre. Il faut qu'elle souffre, il faut qu'elle sache au moins que j'ai souffert, me disais-je. Je sortais à toutes les gares pour me distraire. Au buffet d'une gare, je vis qu'on buvait, et tout de suite, j'allais avaler un verre d'eau-de-vie. À côté de moi, un juif buvait aussi. Il se mit à me parler, et moi, pour ne pas rester seul dans mon wagon, j'allais avec lui en troisième classe, dans un wagon sale, enfumé, plein de pelures, de graines de tournesol. Là, je me mis à côté de lui. Il bavardait et racontait beaucoup d'anecdotes. Je l'écoutais, mais ne pouvais comprendre ce qu'il disait, parce que je continuais à penser à mon sujet. Il le remarqua et exigea de moi que je fisse attention. Alors je me levai et retournai dans mon wagon. « Il faut réfléchir, me dis-je, voir si ce que je pense est vrai, si j'ai des raisons de me tourmenter. » Je m'assis pour réfléchir tranquillement, mais tout de suite, au lieu de réflexion calme, la même chose recommença. Au lieu de raisonnement, des tableaux et des images. Que de fois me suis-je tourmenté ainsi, songeais-je, me rappelant des accès antérieurs et pareils de jalousie, et puis finalement ce n'était rien. Il en est de même maintenant. Peut-être, c'est même certain, la trouverai-je tranquillement endormie. Elle se réveillera, sera heureuse, et dans ses paroles, dans son regard, je verrai que rien n'est arrivé, que tout cela était absurde. Ah, comme ce serait bien! Mais non, c'est arrivé, trop souvent. Cette fois, c'est fini, me disait une voix. Et de nouveau, tout recommençait. Ah, quel supplice! Ce n'est pas dans un hôpital de syphilitique que j'introduirais un jeune homme pour lui ôter le désir des femmes, mais dans mon âme pour lui montrer le démon qui le déchirait. Ce qui était effroyable, c'était de me reconnaître un droit indiscutable sur le corps de ma femme, comme si c'était mon corps, pendant que je sentais que je ne pouvais pas posséder ce corps, qu'il n'était pas à moi, qu'elle en pouvait faire ce qu'elle voulait, et qu'elle en voulait faire ce que je ne voulais pas qu'elle en fît. En outre, je me sentais impuissant contre lui et contre elle. Lui, comme le Vanka des contes, chanterait avant de monter au gibet, baiserait ses lèvres douces, etc. Et il aurait l'avantage. Avec elle, c'est pire encore. Si elle ne l'a pas fait, elle le désire et le veut. Je sais qu'elle le veut. C'est encore pire. Il vaudrait mieux qu'elle l'eût déjà fait, je sortirais de mon incertitude. Enfin, je n'aurais su dire ce que je désirais. Je désirais qu'elle ne voulût pas ce qu'elle devait vouloir. C'était une folie complète. 26. À l'avant-dernière station, quand le contrôleur entra prendre les billets, je pris mes bagages et allai sur la plateforme du wagon. La conscience que le dénouement était là, imminent, augmenta encore mon émotion. J'avais froid, ma mâchoire tremblait si fort que mes dents claquaient. Machinalement, je sortis de la gare avec la foule. Je pris une voiture et allai à la maison. Sans penser à rien, je regardais les rares passants et les portiers, et les ombres projetées par les lanternes de ma voiture, tantôt devant, tantôt derrière. Après une demi-verste de course, je me sentis froid aux pieds, et je me souvins que, dans le wagon, j'avais ôté mes chaussettes de laine et les avais mises dans mon sac de voyage. Où avais-je mis le sac? Était-il avec moi? Oui. Et le panier? Je constatai alors que j'avais totalement oublié mes bagages. Je pris mon bulletin, mais décidant que ce n'était pas la peine de retourner, je continuai ma route. Malgré tous mes efforts pour me souvenir, je ne puis me rendre compte de mon état d'alors. Ce que je pensais, ce que je voulais, je n'en sais rien. Je me rappelle seulement que j'avais la conscience que quelque chose d'épouvantable, de très grave, se préparait dans ma vie. Était-ce si grave, parce que je le pensais ainsi, ou bien avais-je un pressentiment? Je ne sais. Peut-être aussi qu'après tout ce qui est arrivé, tous les événements antérieurs ont pris dans mon souvenir une teinte lugubre. J'arrivais devant le perron. Il était minuit passé, quelques voitures stationnaient devant la porte, attendant des clients, attirés par les fenêtres éclairées. Les fenêtres éclairées étaient celles de notre salon et de notre salle de réception. Sans me rendre compte pourquoi nos fenêtres étaient éclairées si tard, je montai l'escalier, toujours dans l'attente de quelque chose de terrible, et je sonnai. Le domestique, un homme bon, diligent et très bête, nommé Egor, m'ouvrit. La première chose qui me sauta aux yeux dans l'antichambre fut, au porte-manteau, parmi d'autres vêtements, un par-dessus. J'aurais dû m'en étonner, mais non, je m'y attendais. « C'est cela, » me dis-je. Je demandai à Egor qui était là, il me nomma Troukachevski. Je m'informai s'il y avait d'autres visiteurs. Il répondit « Personne ». Je me rappelle de quel air il me dit cela, comme s'il voulait me faire plaisir et dissiper mes doutes. « C'est cela, » avais-je l'air de dire. « Et les enfants ? Dieu merci, ils vont bien. Ils dorment depuis longtemps. » Je respirais à peine et ne pouvais retenir le tremblement de ma mâchoire. Ainsi, c'est ce que je pensais. Jadis, il m'arrivait, en rentrant chez moi, de penser qu'un malheur m'attendait, mais il n'en était rien. Tout allait comme auparavant. Maintenant, c'était une autre affaire. Tout ce que je m'imaginais, tout ce que je croyais être des chimères, tout cela existait vraiment. C'était là. Je faillis sangloter, mais tout de suite le démon me souffla. « Pleure, fais du sentiment, et eux se sépareront tranquillement, et il n'y aura pas de preuve, et toute ta vie tu douteras, tu souffriras. » Alors la pitié pour moi-même s'évanouit. Il ne resta qu'un sentiment étrange, vous ne le croirez pas, un sentiment de joie. Ma souffrance allait être terminée. Maintenant j'allais pouvoir la punir, me débarrasser d'elle, donner libre cours à ma colère. Et je donnai libre cours à ma colère. Je devins une bête féroce et rusée. « Non, non, » dis-je à Egor, qui voulait m'annoncer. « Tiens, prends une voiture et va vite chercher mes bagages. Voici le bulletin. Va. » Il passa le long du corridor pour prendre son paletot. Craignant qu'il ne leur donnât l'éveil, je l'accompagnai jusqu'à sa chambre et attendis qu'il fût prêt. De la salle à manger arrivait un bruit de conversation, de couteaux et d'assiettes. Il mangeait et n'avait pas entendu la sonnette. « Pourvu qu'il ne sorte pas, » pensais-je. Egor mit son paletot à col d'astrakhan et sortit. Je fermai la porte derrière lui. Une fois seul, je me sentis anxieux à la pensée que, tout de suite, il fallait agir. Comment ? Je ne savais pas encore. Je savais seulement que, maintenant, tout était fini, qu'il ne pouvait être question de son innocence, et que dans un instant, je la punirais et romprais à jamais avec elle. Auparavant, j'avais encore des doutes. Je me disais, je me trompe peut-être. Maintenant, le doute avait disparu. Tout était décidé irrévocablement. Secrètement, toute seule avec lui, la nuit, c'est l'oubli de tous les devoirs, ou, pis encore, elle apporte trop d'audace et d'insolence dans le crime pour que cet excès même d'audace prouve son innocence. Tout est clair, nul doute. Je ne craignais qu'une chose, que chacun d'eux ne s'en fût de son côté, qu'ils n'inventassent quelque nouveau mensonge et ne me privassent de la preuve matérielle de la possibilité de les confondre. Et pour les surprendre plus vite, je me dirigeai sur la pointe des pieds vers la salle à manger, non par le salon, mais par le corridor et l'appartement des enfants. Dans la première chambre dormait le petit garçon. Dans la seconde, la vieille bonne remua, et il me parut qu'elle allait s'éveiller. Aussitôt, je me représentai ce qu'elle penserait quand elle saurait tout, et la pitié que je ressentis pour moi-même fut si forte que je ne pus retenir mes larmes. Pour ne pas réveiller les enfants, je m'enfuis à pas légers par le corridor, dans mon cabinet de travail, où je me laissais tomber sur le divan et sanglotais. Moi, honnête homme, moi, fils de parents honorables, moi qui toute ma vie ai rêvé le bonheur dans ma famille, moi, l'époux qui n'a jamais trahi, et voilà mes 5 enfants. Et elle embrasse un musicien parce qu'il a des lèvres rouges. Non, ce n'est pas une femme, c'est une chienne. Une chienne immonde. À côté de la chambre des enfants, pour lesquels toujours elle feignait tant d'amour. Et ce qu'elle m'a écrit. Et, au fait, peut-être en fut-il toujours ainsi. Peut-être a-t-elle eu avec les domestiques les enfants qu'on croit miens. Et si j'étais arrivé demain, elle serait venue à ma rencontre avec sa coiffure, avec son corsage, ses mouvements indolents et gracieux, et je vis toute sa personne attirante et ignoble, et la jalousie serait demeurée pour toujours dans mon cœur déchirante. Que dira la vieille bonne, Egor, et la pauvre petite Lise? Elle comprend déjà quelque chose. Oh, cette impudence, ce mensonge, cette sensualité bestiale que je connais si bien, me dis-je. Je voulus me lever, impossible. Le cœur me battait si fort que je ne tenais pas sur mes jambes. Oui, je mourrai d'un coup de sang. C'est elle qui me tuera. C'est ce qu'elle veut. Qu'est-ce que cela lui fait de tuer? Mais elle serait trop heureuse. Je ne lui laisserai pas ce plaisir. Oui, moi je suis là, et eux sont là-bas, ils mangent, ils rient, ils... Oui, bien qu'elle ne soit plus de la première jeunesse, il ne l'a pas dédaignée. Malgré tout, elle n'est pas mal, et surtout pas dangereuse pour sa santé à lui. Pourquoi ne l'ai-je pas étranglée alors, me dis-je, me rappelant une autre scène, quand, la semaine dernière, je l'ai chassée de mon cabinet de travail et que j'ai brisé les meubles. Et je me souvins précisément de l'état où je me trouvais alors. Non seulement je m'en souvins, mais je sentis le même besoin de battre, de frapper, de détruire. Alors, brusquement, me vint le désir d'agir, et tous les raisonnements, excepté ceux qui étaient nécessaires à l'action, s'évanouirent. Je fus dans l'état de la bête ou de l'homme sous l'influence de l'excitation physique pendant un danger. Lorsqu'on agit imperturbablement, sans hâte, aussi sans perdre une minute, en poursuivant un but précis. 27. Je commençais d'abord par ôter mes bottes, et, en chaussettes, je m'approchais du mur vers le divan, au-dessus duquel j'avais suspendu des armes à feu et des poignards. Je décrochai un poignard recourbé de damas à la lame très aiguë, qui ne m'avait jamais servi. Je le tirai de sa gaine. Je me rappelle que la gaine glissa derrière le divan et que je me dis « Il faudra la retrouver après, il ne faut pas qu'elle se perde. » Puis jetai mon pardessus que j'avais gardé tout le temps, et à pas de loup, Doucement, je me dirigeais là-bas. J'ouvris brusquement la porte. Je me souviens de l'expression de leur visage lorsque j'ouvris la porte. Je m'en souviens parce qu'elle éveilla en moi une joie douloureuse. C'était une expression de terreur. Ce que je désirais. Jamais je n'oublierai cet effroi désespéré et soudain qui apparut sur leur visage quand ils m'aperçurent. Lui, je crois, était à table, et quand il me vit ou m'entendit, il sursauta, se mit debout et recula jusqu'au buffet. La peur était le seul sentiment qu'exprima nettement sa physionomie. En elle aussi se lisait la peur, mais avec d'autres impressions. Si sa physionomie à elle n'avait exprimé que l'épouvante, peut-être ce qui est arrivé ne serait-il pas arrivé. Mais dans l'expression de son visage, il me sembla voir, du moins au premier moment, l'ennui, le mécontentement d'être troublé dans son amour, dans son bonheur avec lui. On eût dit que son seul regret était d'avoir été troublé au moment d'être heureuse. Ces diverses expressions ne parurent sur leur face qu'un instant. Presque immédiatement, la terreur fit place à l'alternative. Peut-on mentir ou non? Si oui, il fallait commencer. Sinon, quelque chose allait se passer. Mais quoi? Et il la regarda interrogativement. L'expression d'angoisse et d'ennui qui se montrait sur son visage me paraissait se transformer, quand elle le regardait, en une expression de souci pour lui. Je m'arrêtai un instant à la porte, le poignard caché derrière mon dos. À ce moment, il sourit, et d'un ton indifférent jusqu'au ridicule, il dit « Nous faisions de la musique ». Je ne m'attendais pas, commença-t-elle en même temps, réglant son ton sur le sien. Mais ni l'un ni l'autre ne continuèrent. La même rage que j'avais éprouvée la semaine précédente s'empara de moi. Je sentis le besoin de laisser éclater ma violence et la joie de la colère. Non, ils n'achevèrent pas. Cette chose dont ils avaient peur allait commencer et rendre inutile toute parole. Je me jetai sur elle en cachant le poignard pour qu'il ne m'empêchât pas de porter le coup où je voulais, sous le sein, dans la poitrine. J'avais choisi cet endroit dès le premier instant. En ce moment, il vit, et ce que je n'attendais pas de sa part, il saisit ma main et s'écria « Revenez à vous! Que faites-vous? Au secours !» J'arrachai ma main de son étreinte et fondis sur lui. Ses yeux rencontrèrent les miens, et tout d'un coup, il pâlit. Ses yeux scintillèrent bizarrement, et ce que je n'attendais pas non plus de lui, il fila par-dessous le piano vers l'autre chambre. Je voulus le poursuivre, mais quelque chose de lourd s'abattit sur mon bras gauche. C'était elle. Je fis un effort pour la repousser. Elle se cramponna plus fortement, ne me lâchant pas. Cet obstacle inattendu, ce fardeau et ce contact répugnant ne firent qu'accroître mon irritation. Je me rendais compte que j'étais complètement fou et que je devais être effroyable. Et j'en étais heureux. Je pris mon élan et de toutes mes forces, du coude de mon bras gauche, je lui assénai un coup en pleine figure. Elle poussa un cri et lâcha mon bras. Je voulus poursuivre l'autre, mais je sentis le ridicule qu'il y aurait à poursuivre en chaussette l'amant de sa femme. Or, je ne voulais pas être grotesque. Je voulais être terrible, et malgré la violence de ma rage, j'avais tout le temps conscience de l'impression que je produisais sur les autres, et même cette impression me guidait en partie. Je me tournai vers elle. Elle s'était effondrée sur la chaise longue, et se couvrant le visage à l'endroit où je l'avais frappée, elle me regardait. Sa physionomie exprimait la peur et la haine envers moi, son ennemi, comme chez le rat quand on relève la ratière. Du moins ne vis-je en elle que cette peur et cette haine. Cette peur et cette haine qui avaient provoqué l'amour pour un autre. Peut-être encore me serais-je retenu et n'aurais-je pas fait ce que j'ai fait si elle s'était tue. Mais brusquement, elle se mit à parler et saisit ma main armée du poignard. « Reviens à toi. Que fais-tu? Qu'as-tu? Il n'y a rien eu. Rien, rien. Je te le jure. » J'aurais atermoyé encore, mais ces dernières paroles, d'après lesquelles je conclus le contraire de ce qu'elles affirmaient, c'est-à-dire que tout était arrivé, ces paroles demandaient une réponse. Or, cette réponse devait correspondre à l'état dans lequel je m'étais mis et qui allait, et devait aller toujours crescendo. La rage aussi a ses lois. « Ne mens pas, coquine » hurlai-je, et de la main gauche, je saisis sa main. Elle se dégagea. Alors, tenant toujours mon poignard, je la pris par la gorge, la terrassai et me mis à l'étrangler. Comme son cou était dur! De ses deux mains, elle se cramponna aux miennes, les arrachant de sa gorge strangulée. Moi, comme si je n'attendais que cela, de toute ma force, je la frappai d'un coup de poignard au côté gauche, au bas des côtes. Quand les gens disent que dans les accès de fureur, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils font, c'est absurde et c'est faux. Je me rappelle tout. Je ne perdis pas conscience un seul instant. Plus je m'excitais à la fureur, plus ma conscience était lucide, et je ne pouvais ne pas voir tout ce que je faisais. À chaque seconde, je savais ce que je faisais. Je ne puis dire que je savais d'avance ce que je ferais, mais à l'instant où j'agissais, et il me semble même un peu auparavant, je savais ce que je faisais, pour avoir la possibilité de m'en repentir, semblait-il, ou pour me dire plus tard que j'aurais pu m'arrêter. Je savais que je portais le cou au bas des côtes et que le poignard entrerait. Au moment où je le faisais, je savais que j'accomplissais un acte horrible, tel que je n'en avais jamais accompli, et dont les conséquences seraient épouvantables. La conscience fut rapide comme l'éclair, et le fait suivit immédiatement, l'acte laissant en moi une clarté extraordinaire. J'eus conscience, et me souviens du moment, de la résistance du corset, encore de quelque chose, puis l'enfoncement du couteau dans une matière molle. Elle saisit le poignard avec ses mains, s'y coupa, mais ne put arrêter le coup. Longtemps après, en prison, quand la révolution morale fut accomplie en moi, je pensais à cette minute. Je me remémorais tout ce que je pouvais et y réfléchissais. Je me rappelle le moment qui précéda l'acte, cette conscience terrible que j'avais de tuer une femme sans défense, ma femme. Je me rappelle bien l'horreur de cette conscience, et je sais vaguement qu'aussitôt le poignard enfoncé, je le retirai, afin de réparer, d'arrêter mon action. Pendant une seconde, je restais debout, immobile, me demandant ce qui allait se passer, si ce que je venais de faire était réparable. Elle bondit et s'écria « Nounou, il m'a tué !» La vieille bonne, qui avait entendu du bruit, se tenait à la porte. J'étais toujours debout, attendant, et ne croyant pas moi-même à ce qui était arrivé. Mais à ce moment, sous son corset, un flot de sang jaillit. Alors seulement je compris que toute réparation était impossible. Je décidai même qu'elle n'était pas nécessaire, qu'il était arrivé ce que je voulais, ce que je devais accomplir. J'attendis jusqu'à ce qu'elle tombât, et que la bonne, en criant « Oh mon Dieu !» accourut vers elle. Alors seulement, je jetai le poignard et sortis de la chambre. Il ne faut pas s'affoler. Il faut avoir conscience de ce que j'ai fait, me dis-je, ne regardant ni elle ni la vieille bonne. Celle-ci criait, appelait la femme de chambre. Je m'éloignai dans le couloir. J'envoyai la femme de chambre et me dirigeai vers mon cabinet de travail. « Que faut-il faire maintenant ?» me demandai-je. Et immédiatement, je compris ce qu'il fallait faire. Dès que je fus dans mon cabinet, je me dirigeai tout droit vers le mur, je décrochai le revolver et l'examinai attentivement. Il était chargé. Je le mis sur la table. Puis je ramassai la gaine du poignard derrière le divan et je m'assis. Je restai longtemps ainsi. Je ne pensais à rien, je ne cherchais à me souvenir de rien. J'entendais là-bas un bruit de pas étouffés, un remuement d'objets et d'étoffes, puis l'arrivée d'une personne, puis encore d'une autre personne. Puis je vis Egor apporter dans ma chambre mes bagages du chemin de fer, comme si quelqu'un en avait besoin. « Sais-tu ce qui est arrivé ?» lui dis-je. « Dis au portier de prévenir la police. » Il ne répondit rien et sortit. Je me levai, je fermai la porte, je pris les cigarettes et les allumettes, et je me mis à fumer. Avant même que j'eusse fini ma cigarette, le sommeil me saisit et me terrassa. Je dormis sûrement 2 heures. Je me souviens d'avoir rêvé que je vivais en bonne intelligence avec elle, qu'après une brouille, nous étions en train de faire la paix, que quelque chose nous en empêchait, mais que, cependant, nous étions amis. Un coup à la porte m'éveilla. C'est la police, pensais-je, en revenant à moi. J'ai tué, je crois. Mais c'est peut-être elle. Peut-être n'est-il rien arrivé. On frappa de nouveau. Je ne répondis pas. Je me posais la question, est-ce arrivé ou non? Oui, c'est arrivé. Je me souvins de la résistance du corset, de la pénétration du poignard, et un frisson courut dans mon dos. Oui, c'est arrivé. Oui, maintenant je n'ai plus qu'à me tuer, me disais-je. Je disais cela, mais je savais bien que je ne me tuerais pas. Cependant, je me levai, je pris le revolver. Chose étrange, auparavant, j'avais souvent songé au suicide. Cette même nuit, en chemin de fer, cela me paraissait facile, surtout parce que je pensais combien cela la stupéfierait. À présent, non seulement je ne pouvais me tuer, mais pas même y penser. Pourquoi me tuer? Me demandai-je, sans me répondre. De nouveau, on frappa à la porte. Oui, mais d'abord, il faut savoir qui frappe. J'ai le temps. Je remis le revolver sur la table et le cachai sous un journal. Je m'avançai vers la porte et tirai le verrou. C'était la sœur de ma femme, une veuve bonne et sotte. « Basile, qu'est-ce ? » dit-elle. Et ses larmes, toujours prêtes, coulèrent. « Que vous faut-il ? » demandai-je grossièrement. « Basile, elle se meurt. » Ivan Zakharitch l'a dit. Ivan Zakharitch, c'était le docteur, son conseiller. « Est-il ici ? » demandai-je. Et toute ma haine contre elle se souleva de nouveau. « Eh bien quoi ? » « Basile, viens près d'elle. »« Ah, que c'est horrible !» dit-elle. « Allez près d'elle ?» me demandai-je. Et tout de suite, je me répondis qu'il fallait y aller, que, probablement, cela se fait toujours ainsi quand un mari, comme moi, tue sa femme, qu'il fallait absolument aller la voir. « Si cela se fait, il faut y aller, » me répétai-je. « Oui, si c'est nécessaire, j'en aurai toujours le temps, » me dis-je, songeant à mon intention de me faire sauter la cervelle. Et je suivis ma belle-sœur. Maintenant, il va y avoir des phrases, des grimaces, mais je ne céderai pas, me répétai-je. Attends, dis-je à ma belle-sœur. C'est bête d'être sans chaussures. Laisse-moi mettre au moins des pantoufles. 28. Chose étrange, une fois hors de mon cabinet, quand je passais à travers les pièces si familières, de nouveau l'espoir me vint que rien n'était arrivé. Mais l'odeur des drogues médicales, iodoforme, acide phénique, me ramena à la réalité. Non, tout est arrivé. En passant dans le corridor à côté de la chambre des enfants, j'aperçus la petite Lise. Elle me regarda avec des yeux épouvantés. Il me sembla même que les 5 enfants me regardaient. J'arrivai à la porte de notre chambre à coucher. La femme de chambre m'ouvrit de l'intérieur et sortit. La première chose que j'aperçus, ce fut sur une chaise, sa robe gris clair toute noire de sang. Elle était étendue sur notre lit, les genoux soulevés. Elle était couchée très haut, sur des oreillers seulement, avec sa camisole entrouverte. Des linges recouvraient sa blessure. Une odeur lourde d'iodoforme emplissait la chambre. Ce qui me frappa d'abord et plus que tout, ce fut son visage enflé et bleui sur une partie du nez et sous les yeux. C'était la suite du coup de coude que je lui avais lancé quand elle avait voulu me retenir. De beauté, il ne restait plus aucune trace. Quelque chose de hideux m'apparut en elle. Je m'arrêtai sur le seuil. « Approche-toi d'elle, approche-toi, » me dit sa sœur. « Oui, elle doit probablement se repentir. Il faut lui pardonner, » pensais-je. « Oui, elle meurt. Il faut lui pardonner, » ajoutai-je, désirant être généreux. J'approchai jusqu'au bord du lit. Avec difficulté, elle leva sur moi ses yeux, dont l'un était tuméfié, et prononça avec peine, en hésitant, « Tu es arrivé à ce que tu voulais. Tu m'as tué. » Et sur son visage, à travers les souffrances physiques, malgré l'approche de la mort, parut la même vieille haine que je connaissais si bien. « Les enfants, je ne te les donnerai pas. « Tout de même, elle, sa sœur, les prendra. » Mais ce qui était pour moi l'essentiel, sa faute, sa trahison, on eût dit qu'elle ne croyait même pas nécessaire d'y faire allusion. « Oui, jouis de ton œuvre. » Et elle sanglota. Sa sœur se tenait à la porte avec les enfants. « Oui, voilà ce que tu as fait. » Je jetai un regard sur les enfants, puis sur son visage meurtri, tuméfié, et, m'oubliant pour la première fois, oubliant mes droits, mon orgueil, pour la première fois, je vis en elle un être humain. Et tout ce qui m'offensait naguère, toute ma jalousie, m'apparut maintenant si petit, et au contraire ce que j'avais fait m'apparut si important que j'eus envie de m'incliner, d'approcher mon visage de sa main et de dire « Pardon ». Mais je n'osais pas. Elle se taisait, les paupières baissées, n'ayant évidemment plus la force de parler. Puis son visage déformé se mit à trembler, à se rider. Elle me repoussa faiblement. « Pourquoi tout cela est-il arrivé? Pourquoi ?»« Pardonne-moi, dis-je. »« Pardonner? Tout cela n'est rien. » »« Seulement, ne pas mourir !» s'écria-t-elle soudain. Et ses yeux brillèrent fiévreusement. « Ah, tu es arrivé à ce que tu voulais. Je te hais. Ah, ah. » Puis elle commença à délirer. Elle avait peur. Elle criait « Tue ! Je n'ai pas peur. Mais frappe-les tous. Il est parti. Il est parti. » Le délire continua. Elle ne reconnaissait plus personne. Le même jour, vers midi, elle mourut. Moi, je fus arrêté avant, à 8 heures du matin. On me mena au poste de police, puis en prison. Là, pendant 11 mois de prévention, je réfléchis sur moi, sur mon passé, et je compris. Oui, je commençais à comprendre dès le 3e jour. Le 3e jour, on me mena là-bas. Il sembla vouloir ajouter quelque chose, mais n'ayant plus la force de retenir ses sanglots, il s'arrêta. Redevenu calme, il poursuivit. Je commençais à comprendre seulement quand je la vis dans le cercueil. Il poussa un sanglot, puis aussitôt reprit hâtivement. Alors seulement, quand je la vis morte, je compris tout ce que j'avais fait. Je compris que c'était moi qui l'avais tuée, que c'était moi qui avais fait de cette créature qui était vivante, chaude, cette chose immobile, toute froide, et qu'il n'existait aucun moyen de réparer cet acte. Celui qui n'a pas vécu cela ne pourra pas comprendre. « Ouh, ouh !» fit-il plusieurs fois. Puis il se tut. Longtemps, nous demeurâmes sans rien dire. Il sanglotait et tremblait silencieusement devant moi. Son visage s'était affiné, allongé, sa bouche s'était élargie. « Oui, » dit-il subitement, « si j'avais su ce que je sais maintenant, c'eût été tout autre chose. » Je ne me serais marié avec elle à aucun prix. Je ne me serais jamais marié. » De nouveau, nous restâmes longtemps silencieux. « Eh bien, pardonnez !» Il se détourna de moi et s'allongea sur la banquette en s'enveloppant de son plaid. Il était 8 heures du matin quand le train arriva à la gare où je devais descendre. Je m'approchai de lui pour prendre congé. Dormait-il ? Où feignait-il de dormir? En tout cas, il ne bougea pas. Je lui touchai le bras. Il se découvrit. Il ne dormait pas. « Adieu, » dis-je en lui tendant la main. Il me tendit la main, me sourit imperceptiblement, mais d'un sourire si navré que j'eus envie de pleurer. « Oui, pardonnez, » dit-il, répétant le mot par lequel il avait terminé son récit.